Le premier qui a été ici dans la poudrerie, qui a fait de la poudre, c'était un particulier. C'était pas même une entreprise, c'était un petit artisan.
Mais il y a longtemps, c'était en 1800 et quelques.
Oh, avant même, c'est avant.
Parce que pendant la guerre de 14, on avait les bonnes femmes. Ouais. Je voyais les bâtiments, il y avait les vieux moulins là-bas. Il y avait encore les photos, il y avait encore tout le vieux matériel. Elle faisait les obus et les cartouches pour la guerre.
Sylvie Violant, je suis la directrice de l'établissement culturel Le Carré Les Colonnes. Ouais, alors, la poudrerie, bon, maintenant, elle ne s'appelle plus comme ça. Mais c'est l'entreprise en fait qui est au centre de Saint-Médard. Ça fait un grand territoire finalement vide qu'on connaît pas. Enfin vide, il n'est pas vide, mais disons que toute la ville s'est construite autour. D'ailleurs, la ville elle-même a été construite parce qu'il y avait cette poudrerie. Donc ça faisait du travail. Donc c'est toujours une grosse entreprise qui est un peu comme en creux dans la ville. D'ailleurs, quand on voit la carte de la ville, et ben, au milieu, il y a un grand blanc et toute la ville est construite autour. Et au début, quand on arrive dans cette ville, on ne comprend pas bien comment c'est fait, on se perd un peu parce qu'en fait, on n'arrête pas de faire le tour. Donc les quartiers sont vraiment tout autour.
Parce qu'on ne peut pas rentrer dedans.
Non, on ne peut pas rentrer dedans. C'est une zone protégée, sécurisée, donc c'est très difficile, bon, mis à part pour les gens qui y travaillent.
Et si on le contourne ? Et si on le contourne, c'est devenir planète. Le contourner, c'est devenir planète.
On tourne autour alors.
Alors il y a la poudrerie, puis il y a aussi un terrain militaire à proximité. Et donc on entend assez fréquemment des détonations. donc ça surprend un peu au début, puis après on s'habitue. Et puis aussi des panaches de fumée blanche de temps en temps. Donc voilà, c'est moi, je sais que les premières fois, j'étais pas au courant, ça m'a fait vraiment peur.
C'était tous les jours, mais tous les jours, le jour, oui.
Et vous faisiez quoi, du coup, hein? Qu'est-ce que vous y faisiez exactement, en fait, vous?
Moi, j'ai travaillé, là.
Et vous faisiez péter les bombes?
Oui.
D'accord.
C'est.
Et c'est là qu'on fait le... On m'a parlé du M51,
ouais.
Comme ça. C'est là qu'on le fabrique?
Oui.
C'est quoi exactement en fait?
C'est un missile. C'est un missile nucléaire.
D'accord.
On attend l'explosion.
En fait, il faudrait que je me renseigne plus parce que je crois que je suis un peu comme tout le monde ici, c'est-à-dire que tu vois, c'est vraiment en creux quoi. Personne s'y intéresse réellement. Parce qu'on voit pas en même temps, tu vois, ça a aucune présence, même l'entrée. Je sais même pas où elle est, moi, l'entrée du personnel. Ça se voit pas, quoi. Ça se voit vraiment pas.
Le M51, c'est le nom du missile?
Ouais.
Okay. Mais ça pète pas ici.
Alors aujourd'hui, c'est la 9e station des chantiers mobiles des Vento.
On va avoir la deuxième partie qu'on attend avec impatience, de la collaboration entre donc Grenouille, l'agence touriste, et puis l'agence de géographie affective dans leur exploration, leur grande exploration de la plaine maraîchère des Jalles. Le sujet d'aujourd'hui, c'était déjà d'être sur cette plaine maraîchère des Jalles, même si là, aujourd'hui, on est un petit peu à l'extrémité de cette plaine. Et de parler d'agriculture urbaine. Donc on va en parler dans un premier temps avec le collectif Alpage, qui est un collectif de paysagistes. Alors leur nom est assez intéressant, parce qu'Alpage, déjà, ça nous fait voyager. Après, on parlera pendant l'échange de cette agriculture urbaine. On essaiera d'en mesurer les tenants et les aboutissants.
Alors c'est intéressant parce qu'ici, on est à Saint-Médard, et une particularité quand même dans cette ville, c'est qu'il y a une poudrerie.
Oui.
Est-ce qu'il y a un lien particulier entre les bombes qui sont fabriquées ici et la volonté, l'agriculture urbaine qui se développe aussi ici à travers les jardins partagés et familiaux de Saint-Médard?
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est donc à deux pas de la poudrerie, qui est un territoire extraordinaire. Je ne sais plus combien il y a d'hectares, je crois que c'est de l'ordre de 800 hectares, je crois, de superficie. Et donc, juste à côté de l'entrée de la poudrerie, on est sur ce parcellaire de jardin ouvrier dans un cadre assez magnifique. Comme une survivance, hein, un petit peu isolée, alors qu'on sait que, bon, je pense que c'est plutôt un phénomène assez récent. Je pense qu'il y avait plutôt un fermier ici qui exploitait des champs. Alors le rapprochement, je ne sais pas trop quoi en faire, c'est fait partie de ce que j'aime bien, ce que je t'ai dit l'autre jour, le rapprochement sur une table de dissection entre un parapluie et une machine à coudre. On ne sait pas trop bien quoi en faire, mais en tout cas, c'est assez intéressant que ça coexiste. ici, là, il y a, comme le dit Plaine Maraîchère des Jalles, dans le mot Plaine Maraîchère des Jalles, il y a le mot Jalles. Donc des Jalles, il y en a plusieurs. Donc c'est cours d'eau qui vont rejoindre la Garonne. Et il y avait plein de moulins ici à Saint-Médard. Et en fait, il y a un Nulubrius qui est arrivé au XVIIe siècle, un Hollandais, un meunier hollandais, qui avait des meuneries de poudre en Hollande et qui est venu en fait s'installer ici et qui a développé cette activité. Cette activité s'est complètement développée jusqu'à devenir au début du XXe siècle un des hauts lieux européens de la production de ces substances qui font donc démarrer les fusées et aussi exploser des bombes et des mines. Donc ouais, tout ça c'est venu de l'agriculture finalement, mais je sais pas trop quoi en faire finalement de ce rapprochement.
Chers touristes de la cinétique et de l'altère, je suis le missile, je vole à 19 000 km à l'heure, je fais 12 mètres de haut, je pèse 50 tonnes, je roule au perchlorate. Je pars d'ici et je vais là-bas, là-bas et là-bas en même temps. Il me faut un peu moins d'un quart d'heure pour traverser l'Atlantique. Je vous donnerai des nouvelles de là-bas, affectueusement, Thierry.
Station numéro 9 du chantier mobile, ici, au Pont Rouge. Alors, je vais peut-être commencer par remercier le plus grand absent d'aujourd'hui, M. Grolot, donc le généreux propriétaire qui nous a autorisé à nous installer ici sur cette prairie, à mi-chemin entre, on va dire, quartier résidentiel, parcellaire de jardins familiaux, et puis l'entrée, bien sûr, du plus grand centre de production de poudre à missiles d'Europe, donc la SNPE, ici. Voilà. Donc c'était un territoire assez propice à cette station numéro 9 du chantier mobile où on se posera la question de l'économie de proximité de l'agriculture urbaine. Donc la question, dans une société de plus en plus urbanisée, émerge de manière grandissante la problématique de l'environnement ou comment concilier ville et nature. Face à l'urbanisation extrême de nos territoires, naissent en effet deux mouvements opposés et à la fois liés. En parallèle, un mouvement de rurbanité, c'est-à-dire de retour vers les campagnes, se développe un processus visant à réintégrer celles-ci au sein des villes. Ces nouvelles dynamiques territoriales voient se développer d'autres formes d'échanges commerciaux et d'autres modes de production d'initiatives citoyennes privilégiant le lien entre ville et campagne. Toutes ces pratiques s'inscrivent dans un mouvement d'économie de proximité en constante évolution et font l'idée d'une économie plus durable. Produire, échanger et consommer local. Souvent le résultat d'un tissu associatif développé, ces initiatives, à l'image des AMAP, favorisent les exploitants locaux et sont le gage d'une certaine sécurité alimentaire et d'un mode de vie soutenable. D'autres, comme les jardins partagés, s'approchent même d'une forme d'utopie agricole et urbaine dans laquelle la ville, ou plutôt ses habitants, s'autosuffiraient en cultivant leur propre jardin. Voilà. Donc pour discuter de toutes ces questions, on a bien sûr invité André Fleury, donc, qui est agronome et professeur émérite à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles.
L'agriculture urbaine, pour moi, c'est d'abord une agriculture de crise, crise alimentaire, et puis peut-être de plus en plus crise de la société urbaine. Et c'est en ce sens que c'est bien le trait commun à toute l'agriculture urbaine, c'est ça. C'est qu'il y a des problèmes qui se posent qu'on ne sait pas résoudre. Bon, le maraîcher qui me semble être parti, celui qui... discuter avec M. Bilgaud tout de suite. Ah ben non, vous êtes là-bas, pardon. Il dit, oui, attendez, répondez à la question des prix et après, on pourra voir. Donc, effectivement, il y a un énorme décalage entre parler comme ce que j'ai entendu depuis une heure hein, et puis la réalité d'une agriculture qui souffre parce que le marché change de dimension. Les amateurs d'agriculture locale, à partir de... En gros, du chemin de fer, les Parisiens ont eu accès à un vin, enfin de bonne qualité. Ils ont eu accès à des légumes bretons, provençaux ou autres, qui est quand même, en général, sauf en pic de saison, infiniment meilleur que le légume parisien, etc. etc. Donc, il y a tout ce changement de dimension. le retour au local devra résoudre beaucoup de questions de manière à avoir une clientèle fidèle. Parce que pour l'instant, je pense que, d'après ce que je vois, l'essentiel de la clientèle est plutôt de motivation idéologique que de motivation réellement de, disons, sur la qualité des produits, sur les, et pour reprendre ce que disait le monsieur là-bas, sur les prix. Dans cette période de crise, le prix, non seulement celui payé aux producteurs, mais celui payé par les consommateurs, devient une variable essentielle. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on est très axé sur des agricultures de type bio ou autre, mais pour un agronome, c'est aussi des agricultures à faible productivité, et que beaucoup de gens aux Nations Unies, au CIRAD pour parler français, voient avec angoisse arriver l'année 2050 où on prévoit que la Terre aura 9 milliards d'habitants. On ne voit pas, bon, bien sûr, il y a des raisons politiques, mais les famines qui ravagent ont de moins en moins de solutions, et répondre à la famine par des systèmes faiblement productifs n'est pas forcément une issue très, très intéressante.
Claire Laval, je suis porte-parole de la Confédération paysanne de Gironde. Je voulais réagir sur la productivité de l'agriculture biologique, parce que ça fait débat quand même, ça. Rien ne prouve que... Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'agriculture biologique ? C'est l'agriculture à faible niveau d'intrants. C'est une agriculture qui utilise des rotations un petit peu plus longues, un peu plus complexes que celles qu'on voit communément établies de nos jours. C'est une agriculture qui colle au terroir quelque part, c'est-à-dire qui utilise souvent de façon assez efficace ce qui est localement à sa disposition.
Éric Prédine, voilà, qui est à côté de moi, qui est jardinier et concepteur de jardins partagés, écrivain aussi, hein, qui fait pas mal d'ouvrages sur les jardins.
Excusez-moi, mais j'ai lu il y a pas très longtemps, j'ai relu il y a pas très longtemps un livre qui s'appelle L'histoire des agricultures, et on nous balance toujours les 9 milliards en 2050, et puis on ne nous parle pas des 2070 où on paraît que ça va diminuer aussi. C'est que on peut aussi comparer la productivité d'un jardinier à celle d'un maraîcher au mètre carré. Ou même, on va pousser plus loin, d'un jardinier de culture portugaise avec celui de la culture charentaise. On verra qu'on a des chiffres de 1 à 10. Hein, entre le jardin potager à la française, bien dégagé derrière les oreilles et des allées de façon de la Catini, et puis un jardinier turc qui ne supporte pas les allées et qui n'a même pas de passe-pas. Donc toutes ces comparaisons de productivité, elle a lieu d'être, je pense, sur tout ce qui est l'énergie, donc tout ce qui est apport, amidon, sucre, etc. Parce qu'effectivement, j'ai du mal, moi, en tant que le peu qu'on m'a enseigné au lycée agricole de Blanquefort, et avec ma petite expérience de fils agriculteur et puis de jardinier, j'ai du mal à voir des concurrences en rendement de blé, en rendement d'orge, etc., en rendement de pommes de terre, entre le biologique et le conventionnel. Il y a des réelles différences de productivité. Mais dans l'organisation de la production alimentaire, ne serait-ce que dans l'organisation, il y a des gains de productivité en agriculture urbaine qui sont énormes. Si, en fin de compte, on arrête, comme en Occident, de valoriser uniquement le mécanisable. D'après ce que j'avais compris, j'avais vu des chiffres que plus de 50% de la population active du monde était agriculteur. Donc, en fin de compte, moi, ça ne me pose pas une question de comparer des systèmes de production, mais c'est bien des systèmes de société et leur rapport à la production et à la consommation.
Mais c'est quand vous les entendez quand ils tirent l'hémicycle. Quand à Cap de Bosse, vous les entendez.
Ouais. Ah, oh, ils sont mis dans un...
Ouais, mais ils sont...
comme dans un... un refuge, comme ça.
Ils sont
ça part après en fusion, quoi. Pour mettre en pression sur le... pour voir la pression de la fusée.
D'accord. Ouais.
Et ouais, il faut mourir.
Là, ouais. Ça, il n'y a pas longtemps, mais ça dure.
Je faisais les rampes de lancement, on va voir. On va enculer. Deux tirs, allez à la valise. À refaire.
Recommence.
On faisait ça de béton, armé.
Oh, armé, et puis il y a des ferrailles comme ça.
Et puis des ferrailles.
Allez. Fondues, j'étais fondu.
Deux tirs, il n'y en avait plus. Fondue. Allez, à refaire.
Oh. Il n'y a pas que ça, et que dans le jour, il y a autre chose.
Et celui-là, c'est le M51, c'est le remplaçant.
Il est connu, lui.
Le M51, c'est le tout nouveau de la France.
Ah, c'est ça.
Avant, on avait le M47, mais il n'allait pas assez loin. Parce qu'il pouvait juste aller à 8000 km, alors que celui-là, il peut aller à 12000 km. Et Et du coup aussi, donc c'est de 2010, c'est tout neuf. Et en fait, il est bien parce qu'il fait bosser un peu les entreprises françaises. C'est surtout pour ça. Parce qu'il n'est pas trop nécessaire, parce qu'en fait, un missile qui va aussi vite, il n'y a aucun pays dans le monde. Déjà l'ancien, en fait, il n'y a aucun pays qui a la technologie pour en arrêter un. Donc c'était pas trop la peine de les remplacer.
Oui, mais quand même.
Mais quand même.
Vaut mieux avoir une longueur d'avance.
Vaut mieux avoir une longueur d'avance, et puis ça fait bosser. Donc, on fabrique le combustible ici, à Saint-Médard, et il y a la station de tir, elle est à Biscarrosse. Le premier tir, c'est en 2010. Il y a eu des mouvements de protestation, de gens surtout qui disent que c'est inutile de faire tout ce bazar, qu'on n'est plus dans la guerre froide et tout ça. Et voilà.
Malgré tout, si le métier d'agriculteur fait rêver. La preuve, c'est qu'il y a de la relève. Voilà, malgré toutes les difficultés, un métier plutôt difficile, techniquement aussi difficile, et grosso modo peu rémunérateur si on veut vraiment faire de l'agriculture paysanne et bio qui nourrisse correctement les consommateurs. Je ne parle pas de l'agriculture conventionnelle intensive, c'est autre chose, c'est un autre monde, parce qu'il n'y a pas des paysans, il y a de multiples formes de paysannerie, de multiples formes d'entreprises agricoles, et tout ça est dans un pot commun, et pourtant, ça n'a rien à voir. Quoi. Voilà. Un maïsiculteur des Landes, ou un producteur de céréales donc à Marne-la-Vallée, et un petit maraîcher de la Cube, ça n'a absolument rien à voir. Donc nous, ce qui nous intéresse au CIVAM, donc Centre d'Initiative, et les initiatives, ce sont les citoyens consommateurs qui l'ont pris, finalement, l'initiative, de décider ce qu'ils auront dans leur assiette, de ne pas attendre ou de ne pas continuer à ce qu'on leur impose. Donc ils ont choisi de trouver un partenariat innovant avec ceux qui sont là pour les nourrir, dont c'est le métier, et qui le redécouvrent pour beaucoup, c'est-à-dire faire pousser, sans forcément trouver des intrants qui aident à tout, mais simplement retrouver le sol et sa capacité à produire, c'est déjà pas mal techniquement. Voilà, donc l'innovation et la nouveauté, elle est là, dans la prise de décision et d'initiative des consommateurs citoyens, justement, qui ont poussé probablement aussi les institutions et pouvoirs publics à retrouver aussi la question agricole un petit peu dans toutes les questions et les enjeux d'aménagement du territoire.
Voilà. Alors, une tentative de redéfinition, Eric, Eric Prédine.
Le prix, on sait par quoi il est déterminé. Vous connaissez certainement le plus gros pays producteur de tomates. Oui, c'est la Chine, et pas l'Espagne. Voilà. Et la Chine, elle produit énormément de tomates et elle a besoin énormément d'engrais qui sont produits par les produits pétroliers. Et donc, elle achète beaucoup d'engrais, qui crée une pénurie au niveau mondial, qui crée un surenchissement des prix. Voilà. Alors, effectivement, quand un paysan malien ou un jardinier portugais concurrence un producteur de tomates chinois, ce n'est pas possible. Voilà. La seule chose, c'est que la tomate, nous, elle nous vient d'Espagne, elle ne nous vient pas de Chine. Donc, le prix, voilà les éléments de la définition, qui définit des agricultures différentes. 22% des légumes consommés en France sont issus de l'autoproduction. Et visiblement, ça va en augmentant, parce que tout simplement, ça vaut cher.
Dans mon désir de m'installer comme maraîchère à proximité des villes, je pense que la crise, on y va droit dedans, puisque bientôt, vu l'augmentation de l'essence, on va avoir du mal. C'est pas pour ça que je veux faire du bio, c'est pour des convictions personnelles, mais bon, de toute manière, on va avoir du mal à faire des engrais chimiques. On va avoir du mal à transporter nos légumes. On va avoir, il faut reprendre les choses à la base. L'agriculture, c'est pour manger. Et en face, il y a des gens qui veulent pouvoir acheter ce qu'on produit. Enfin, et nous, on veut vendre, bien sûr, mais il faut être en capacité de le vendre. Si je produis bio à 3000 km d'ici, que je l'envoie par avion, il y a peu de chances que vous puissiez l'acheter, en fait. Et si on veut revenir à des produits qui sont à des prix abordables pour tous, qui sont de bonne qualité, il faut être capable de le produire sur place. pour moi, l'agriculture de proximité, qu'elle soit à l'intérieur de la ville, au bord de la ville ou un petit peu plus loin. Enfin, s'il y a des famines dans le monde, c'est pas seulement parce que l'agriculture est pas efficace. C'est pour plein d'autres raisons, quoi. Et c'est localement, je pense, que chaque ville, chaque petite région, chaque pays doit récupérer son autosuffisance alimentaire. Il y a eu des grandes famines en Argentine. C'est un endroit très agricole et ça n'a rien à voir avec l'agriculture. C'est pas parce que l'agriculture était inefficace que les Argentins ont eu faim, mais pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Enfin, on peut pas toujours mettre tout sur le dos des paysans, quoi.
Les jardins familiales, c'est relativement facile. Il suffit d'aller voir le code rural pour en avoir la définition. C'est un groupement de parcelles de jardins pour la production familiale, dont la vente est excluse, géré par une association. Donc c'est un mouvement qui a été lancé, c'est un mouvement social qui a été lancé, inventé par l'abbé Volpette en 1874, repris politiquement et largement essaimé par l'abbé Lemire, qui était un politicien. Il était siégé à gauche de l'Assemblée nationale, pas tout à fait gauche-gauche quand même, parce qu'il y a une légende, je veux juste faire cette anecdote, où le jardin familial est censé lutter contre l'alcoolisme. Effectivement, l'abbé Lemire avait un objectif, c'est que les ouvriers n'aillent pas au bistrot. Mais c'était parce que dans les bistrots se développaient des idées nouvelles. Ce n'était pas par rapport à l'alcoolisme. Ils ont continué à picoler dans les jardins. En 1936, ils ont pu résister, les ouvriers, largement, parce qu'il y avait les jardins, donc ils ont pu manger, mais aussi avoir des lieux de rencontre. Donc effectivement, c'est aussi des formes d'espace public. Mais à vrai dire, les jardins familiaux, c'était plutôt le patronat éclairé. Et dans les années 80-90, il y a eu un mouvement en France, alors issu de la militance écolo, alors plutôt dans le Nord, vous savez, ceux qui se tapaient les friches industrielles et les pauvres qui vivaient dans les friches industrielles, et plutôt dans le sud, moi j'étais ça, c'était plutôt les boy scouts des restaurants du cœur. Moi je me suis engagé dans les jardins partagés en réaction contre les restaurants du cœur, qui était de dire la distribution du surplus, d'une aberration d'une politique agricole européenne, c'est indigne, c'est pas bon pour la santé pour des gens. Les surplus agricoles, c'était du beurre et de la mayonnaise. En matière d'équilibre alimentaire, on peut mieux faire. Et du coup, comment on peut rendre la dignité aux gens pour qu'ils soient en capacité d'avoir une partie de leur autonomie alimentaire. Et donc, les premiers jardins à Bordeaux, puisque on s'est amusé à Bordeaux, on a fait toutes nos bêtises du côté de Bordeaux, et puis petit à petit, à force de bêtises, on a réussi, on a créé des jardins partagés. Et les jardins partagés, en fin de compte, c'est une définition hyper simple. C'est des jardins qui sont pensés, aménagés, définis, gérer avec les usagers.
Chère agence de géographie affective, je n'ai toujours pas trouvé la carte postale de Saint-Médard, ni de boulangerie, ni de colle à papier, mais j'ai quand même trouvé un grand portail aux piles en pierre surmontées de la traditionnelle bombe de fonte enflammée. J'ai remarqué que la grille en fer forgé est ornée d'un motif de fer de lance et que sur la partie basse de ce portail, on reconnaît le motif en relief de deux fûts de canons entrecroisés. Sinon, tout va bien ici. Je ne sais pas où je vais, mais ça me va très bien. Mathias.
Les citoyens consommateurs, encore une fois. Je veux dire, se sont pris en main et puis ont créé une structure que vous connaissez peut-être au moins de nom, qui s'appelle Terre de Liens. Voilà. Et donc, il y a des antennes un petit peu partout au national. Il y a une antenne qui est née à l'automne dernier grâce à des porteurs de projets périgourdins et qui a vocation à intervenir au niveau régional. Donc, le propos de Terre de Liens, c'est justement trouvant un outil de travail pour installer des paysans. Donc, ayons la maîtrise foncière. Donc, débrouillons-nous pour acheter en commun des terres et les mettre ensuite en location avec des bails auprès des personnes qui veulent s'installer en agriculture. Voilà. C'est aussi une façon très, très modeste qui, bien sûr, ne résoudra aucunement le problème qui reste entier de l'accès au foncier. Mais malgré tout, au moins, ça pousse les responsables publics à se poser les bonnes questions chaque fois qu'il y a une révision de PLU, chaque fois qu'il y a un SCOT qui se prépare, chaque fois que voilà, il est question d'urbanisme. Maintenant, on intègre la question agricole et c'est une bonne chose.
Moi, je suis maraîcher. Et moi, sur la question agriculture urbaine, il y a une espèce de mythe qui se crée dans les villes. Quand je vois des amis, on va faire des jardins partagés sur les toits, tout ça. Bon, c'est très bien un but pédagogique, mais il faut clairement le dire. J'ai pas l'impression que ça a été dit. Ça nourrit personne, quoi. Enfin, ça peut nourrir des gens à Madagascar ou peut-être dans des grandes villes qui se trouvent, je sais pas, à Cuba parce qu'il y a des grands espaces, mais à Bordeaux, enfin, c'est vraiment de la périurbaine, quoi. Et là-dessus, après, il y a une question. On parle beaucoup de relocaliser aussi, mais la céréale, ça sert à rien qu'elle soit en périphérie des villes. La céréale, c'est récolté une fois par an. Les zones maraîchères, vraiment, il y a vraiment aussi une définition de, il y a un zonage à faire aussi, quoi, de l'élevage ou, enfin, de l'élevage, ça sert à rien que ça soit aussi en périphérie.
Alors non, là, je suis en pleine visite guidée. Je travaille à la Lyonnaise des Eaux et donc pour les journées du patrimoine, on ouvre le champ captant du Til. Je vais continuer d'ailleurs. Donc là, on va descendre dans un regard. Nous puisons dans la nappe profonde. Cette nappe a des millions d'années. Donc, l'eau est très propre, elle n'est pas influencée. Elle est pure, sauf quand il pleut et que les charges organiques traversent le sol. Bon, c'est un problème parce que le perchlorate d'ammonium, on ne sait pas d'où il vient. Il vient de la jale, il vient de la nappe phréatique. Est-ce qu'il vient de rejets d'usines? En fait, on n'arrive pas à savoir exactement d'où ça vient. Et donc, on fait une barrière hydrométrique. C'est-à-dire qu'on continue de pomper et on empêche que le polluant se répande dans la nappe phréatique. Bon, il faut dire que le perchlorate d'ammonium sert à fabriquer les propulseurs pour les fusées, pour les airbags. Hein. On en trouve quelques pouillèmes ici, mais vraiment... presque rien. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre, notamment parce que les nourrissons sont plus sensibles à ce produit-là, on ne peut pas permettre de le distribuer. Voilà un peu la situation. La station est arrêtée depuis un an, depuis juin 2011. Et si on ne trouve pas de solution, en juin 2012, on aura des problèmes pour alimenter la cuve. Mais là, on est en train de faire un forage un peu plus loin et ça devrait progressivement résorber les problèmes. Et pour l'instant, pour la visite, on va juste faire comme si la station fonctionnait.
La ville a un super potentiel pratique et concret par rapport à la fertilité des sols à son proximité. C'est la matière fermentée cible. Vous êtes les plus gros producteurs, j'habite à la campagne, vous êtes les plus gros producteurs de matière fermentée cible qui est complètement indispensable à la fertilité des sols. Donc là, il y a un potentiel de ressources qui est génial. En matière de sécurité alimentaire, c'est grâce à vous, gros consommateurs de matière fermentée cible, qu'on va pouvoir refertiliser les sols de la zone urbaine. Je vous en remercie.
Évoquer la science-fiction qui nous aide toujours un petit peu avec. Je vais renouer avec Michel Houellebecq, avec la carte et le territoire, mais d'ici une vingtaine d'années, les Chinois seront dans la Creuse et exploiteront la Terre. Donc je vous invite à relire le dernier chapitre de la carte et le territoire. Merci.